Alors nous voici maintenant réunis pour cette rencontre avec Pascal Pic, qui est à mes côtés. Pascal Pic, je vais d'abord le présenter avant de commencer à discuter avec lui, puis de passer bien sûr, comme on le fait usuellement, aux questions. Donc Pascal Pic est un paléo-anthropologue, qui est maître de conférences au Collège de France. Mais il a d'abord été physicien en physique théorique, et il a rencontré Yves Coppens un jour, et Yves Coppens et Lucie qui est l'Ève imaginaire, Lucie qui est une humanoïde d'il y a 3,1 millions d'années, et qui est une cousine finalement de l'humanité, dont on fête cette année la découverte des 40 ans, les 40 ans de la découverte de son fossile, de son squelette, de ses restes. Et finalement, cette rencontre, je crois, avec Yves Coppens et avec Lucie, finalement, vous avez décidé d'abandonner la physique. Mais c'est bien, parce que finalement, vous êtes arrivé dans un domaine qui est extrêmement intéressant et qui vous passionne et qui va nous passionner aussi, j'en suis sûr. Et actuellement, votre travail, évidemment, de paléanthropologue vous occupe beaucoup, bien sûr, mais vous avez aussi une activité extrêmement importante de collaboration avec le monde économique, le monde social, le monde des entreprises, sur les questions d'adaptation et de management de groupe et d'innovation. Quelle est la différence entre innovation et invention? Comment on produit l'innovation? Comment le monde va se transformer avec votre regard d'anthropologue? C'est là finalement la question du monde de demain qui est posée et à laquelle vous tentez d'apporter des réponses. Vous avez écrit une vingtaine de livres, donc un auteur prolifique, d'excellents livres, dont le plus récent s'intitule « De Darwin à Lévi-Strauss, l'homme et la diversité en danger », qui a été publié en 2013 chez Odile Jacob. Vous avez publié aussi un avis qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a beaucoup amusé, L'homme est-il un grand singe politique, avec à l'intérieur, pour les amateurs de science-fiction, une exégèse de la planète des singes, du roman et du film, qui en a découlé. Et puis vous avez un ouvrage qui va sortir en janvier 2015, m'avez-vous dit, dont le titre, Le discours d'une jeune femme de Néandertal, évidemment, va, d'une manière d'Uchronie, une femme de Néandertal qui porte son regard sur nos sociétés modernes, et un regard à la manière un peu des lettres persanes, finalement, et de ces deux, de Ouzbek et Rika, qui se baladent en Europe. Je conclue en disant que vous aurez une dédicace de 16h à 17h, parce qu'elle n'était pas annoncée exactement à l'heure prévue sur le tableau des dédicaces. Et donc, pour commencer, j'aimerais vous poser la question de cette image qu'on a tous en tête, de l'hominisation qui se fait par redressement progressif d'un être proto-humain, un singe, un semi-singe, on ne sait pas trop quoi, qui se redresse et qui progresse vers l'humain développé, majestueux. Cette image qui est une icône, tout le monde la connaît. On sait bien qu'elle est fausse. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quelle mesure elle est fausse, quelle est sa fausseté, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle porte comme message ou comme image forte?
Merci Roland, bonjour, enfin bon après-midi mesdames et messieurs. Et effectivement, mettre un paléo-anthropologue dans un cadre de science-fiction, ça peut sembler délicieusement décalé, si ce n'est archaïque. Mais on y reviendra certainement, mais je lâche tout de suite le propos. S'il n'y avait pas eu les théories de l'évolution et la paléontologie, il n'y aurait jamais eu de science-fiction. C'est aussi simple que cela. Et tout ça commence évidemment à la fin du 19e siècle. Alors, il est vrai que dans mon parcours, moi qui étais en physique théorique, quand même théorie des champs, mécanique quantique, etc., Lucie, c'était quand même un scoop extraordinaire en 1974. Et là, évidemment, c'est l'ouverture sur des mondes perdus. Hein, c'est vraiment ça, la paléontologie, c'est rechercher ces mondes-là. Et comme je venais du monde de la physique, il y avait dans ce domaine, en fait, des questions à régler. Depuis fort longtemps d'ailleurs, hein, ça remonte à Johann Goethe, hein, pour vous dire, ça remonte à 2 siècles, des questions de morphologie, donc morphologie. Donc pourquoi nos ancêtres, par exemple, avaient une grosse barre osseuse au-dessus des yeux? Pourquoi nous avons un menton et pas l'homme de Néandertal, par exemple? Ça peut vous sembler délicieusement inutile, mais pas du tout. Et en fait, on savait comment résoudre ces questions, mais nous avions un vrai problème, c'était les technologies pour les résoudre. Et au début des années 80, arrivent bien sûr des moyens de mesure miniaturisés qui permettent d'investir ces questions d'un point de vue expérimental, et puis les moyens d'analyse, bien évidemment, qui sont liés à ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique. On peut effectivement analyser, traiter les données différemment. Donc c'était un progrès extraordinaire dans ma discipline. Et c'est au cours de ces années-là qu'on commence à avoir des connaissances précises, validées, publiées sur le comportement des grands singes. Et là, c'est un choc absolument énorme, puisque tout ce qu'on avait raconté sur le propre de l'homme, et qui reste vrai, bien sûr, mais l'a été dans l'ignorance totale des grands singes qui sont près de nous, c'est-à-dire les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orang-outans. Et là, d'un seul coup, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous, c'est celui des origines. Car en définitive, à part Darwin, entre Darwin et moi, excusez-moi, c'est un peu prétentieux, mais c'est qu'en fait, on avait été très mauvais, c'est que personne ne s'était occupé des grands singes. Tout ce qui a été dit sur les origines de la lignée humaine l'a été dans l'ignorance totale des grands singes. Et pour revenir, évidemment, j'ai pas perdu le fil, de cette image de l'hominisation. On a appris comme ça, on l'a appris à l'école, hein, l'hominisation. Le terme vient de Teilhard de Chardin, d'ailleurs. C'est l'idée, effectivement, qui remonte dans nos croyances fondamentales, si bien illustrées par Aristote, qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces. Donc, vous avez tous ça en tête. C'est la fameuse procession des animaux à quatre pattes qui se redressent petit à petit. Et puis, évidemment, arrive sa merveille, c'est-à-dire l'homme. Donc, comme s'il y avait, l'expression de Teilhard de Chardin, d'ailleurs, un schéma cosmique ou un point oméga qui faisait que le corps se redresse et va enfin libérer le cerveau. Et là, vous avez tout le fondement, évidemment, de la pensée méditerranéenne, c'est-à-dire occidentale, celle qui place l'âme au-dessus du corps, la pensée au-dessus de la matérialité. Et donc, cette idée-là fait que, en gros, quand on découvre Lucie, ben, Lucie ne bouscule rien, puisque Lucie, on va décaler un petit peu l'échelle naturelle des espèces et on va la mettre entre les chimpanzés et l'homme. Mais le schéma est déjà préétabli. Donc, il faut attendre les années 1980, avec Yves Coppens, c'est toute son école, hein. Il n'y a pas que moi, bien sûr, c'est tout le groupe de chercheurs et de chercheuses autour d'Yves Coppens, qui va petit à petit complètement bousculer ce schéma qu'on appelle l'hominisation et qui, en fait, est un schéma cosmique qui laisse entendre que l'homme va être dominateur de la nature. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on parle de science-fiction ici. Il y a deux films qui résument cela, notamment un. Un jour, j'étais avec le grand cinéaste et donc scénariste qui s'appelle Jean-Claude Carrière. Nous étions dans un salon du livre. Et je lui dis, écoute Jean-Claude, je suis un peu surpris parce que on a de très bons films de science-fiction, mais on n'a pas de très bons films sur la préhistoire. En fait, il n'y en a aucun. Et je lui dis, quel est pour toi le meilleur film sur la préhistoire ? Alors, on était sur des nappes en papier dans une petite brasserie. On écrit ça sur un bout de papier, comme des gamins, et on s'échange nos papiers. Et il est ressorti le même film, 2001, l'Odyssée de l'espace. Le chapitre d'introduction de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est le meilleur morceau cinématographique qui n'a jamais été réalisé sur les origines de la lignée humaine. Et alors là, attendez, il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes dans les années 60. Et ce qui est exprimé dans ce film, c'est l'hypothèse de Coran Lawrence qui essaie de comprendre d'où vient ce penchant de l'homme à tout détruire, cette violence de l'humanité. Et ce qu'on voit très bien au début du film, on a des humanoïdes qui sont là et qui sont confrontés à la menace des prédateurs. Et là, à un moment, il y a un grand singe anthropoïde qui se saisit d'un bâton, qui fait reculer le léopard, et petit à petit, on voit cette puissance qui se met en place. C'est l'homme qui commence à prendre possession de la Terre par ses techniques et sa violence. Et que dit Coran Lawrence ? C'est que cet événement est récent. On sait qu'aujourd'hui, c'est 2 millions d'années. À l'époque, on ne le savait pas. Et à partir de là, nous dit Coran Lawrence, « Ok, l'homme est obligé de se défendre, de devenir agressif pour éviter de se faire bouffer tout cru. Mais le problème, il n'a pas eu le temps de développer les contre-comportements qui permettent d'éviter l'agression. Vous savez, si vous avez des chiens notamment, votre chien fait une bêtise, le chien se soumet, et même deux chiens qui se battent, au bout d'un moment, l'un des deux, celui qui a perdu, se met sur le dos, il présente ses parties les plus fragiles, et l'autre s'arrête. L'agression s'arrête. Le seul qui ne s'arrête pas, c'est l'homme. L'homme, même si celui qui l'a vaincu se soumet, l'homme peut aller jusqu'à le tuer. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'homme, il y a aussi le chimpanzé. Les deux seules espèces qui se font la guerre. Pourquoi ? Ce sont les deux seules espèces qui ont conscience de soi, de l'autre, et qui ont de l'empathie. L'empathie, c'est bien, ça vous permet de comprendre l'autre, mais l'empathie aussi, ça vous permet de le faire souffrir.
Même chez d'autres grands singes, chez les bonobos, chez les...
Alors les bonobos, ça bastonne un peu, mais pas beaucoup. C'est plutôt faire l'amour et pas la guerre, mais ils ne sont pas si tendres que cela. Et en général, chez les autres, il y a des codes qui permettent d'arrêter. Les deux seuls singes, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, « L'homme est-il un grand singe politique ?» et on reviendra sur la planète des singes peut-être. En fait, les deux seules espèces qui font de la politique et qui font la guerre, ce sont les hommes aujourd'hui et les chimpanzés. Et donc, le schéma de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est passionnant parce que d'un seul coup, vous souvenez cette image qui est absolument... Enfin, c'est transcendant au maximum, c'est fulgurant. Le LOS qui part et qui devient une navette spatiale, et évidemment, on va au-delà. Et alors, c'est passionnant parce que dans cette affaire-là, on a un résumé de l'hominisation, et puis l'homme, donc, il va s'échapper de ses contraintes terrestres, qui est un vieux schéma qui nous vient des Grecs. Donc, on n'en est pas sorti, en fait, de ces mythologies fondamentales. Et aujourd'hui, vous avez une autre image que vous connaissez bien. On a toujours la procession avec l'homme qui se redresse, et maintenant, il se recouche, comme vous le savez, en se repenchant vers la Terre et vers l'ordinateur. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement, d'abord, que notre passé n'a pas été comme cela. En fait, les grands singes marchaient debout, nos ancêtres marchaient tous debout, tous utilisaient des outils. Et ce que l'on sait aujourd'hui, ça peut vous surprendre, chers amis, c'est que sur la planète Terre aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'hommes et de femmes, et en fait, depuis 40 000 ans, ce n'est jamais arrivé. Nous sommes qu'une seule espèce d'homme sur la Terre. Il y a eu toujours plusieurs espèces d'australopithèques contemporaines, de premiers hommes contemporaines. Et il y a 40 000 ans, ce qui est un clin d'œil dans l'histoire de l'évolution, il y avait des hommes et des femmes de Néandertal, il y avait des hommes et des femmes de Denisova qu'on vient de découvrir sur de l'ADN, il y avait des hommes de Flores. Nous avions une seule humanité qui était partagée par plusieurs types d'hommes aussi intelligents qu'enterrés leur mort, etc. Et ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que nous, aujourd'hui les humains, et c'est l'objet certainement de toutes les interrogations qui sont ici, nous sommes de nous-mêmes en train de construire un monde qui existait il y a 40 000 ans, mais où cette fois-ci, on aura certainement, et c'est l'objet de mon prochain livre, des clones, des robots intelligents, et peut-être que demain, ce sera peut-être à nouveau la planète des singes, et c'est ça qui m'intéresse en tant qu'anthropologue.
Avant de revenir sur l'aspect futur, dans le passé, il y a eu plusieurs humanités, notamment plusieurs espèces humaines qui ont peuplé la Terre en même temps. Est-ce qu'on peut, du point de vue de l'intuition, elles avaient la même intelligence? Elles enterraient leurs morts, il y avait des rites, il y avait quelque chose qui les rendait semblables à nous par beaucoup d'aspects. Est-ce que du point de vue de l'intelligence, ou c'est le thème de ces utopiales, est-ce qu'on peut les comparer? Elles avaient par exemple un cerveau plus gros, plus petit? Est-ce que ce cerveau plus gros, plus petit est une marque d'une intelligence plus ou moins grande? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Est-ce qu'on peut, évidemment, probablement je fais volontairement de la provocation pour titiller, tu me connais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Est-ce que la marque, un gros cerveau c'est plus intelligent, un petit cerveau c'est moins intelligent? Et ces humains du passé, est-ce qu'ils étaient des humains au rabais, entre guillemets?
Au rabais, non, certainement pas. Et c'est l'objet, pardon, j'en parle parce que c'est l'actualité pour moi et pour nous. Mon prochain livre, en fait, c'est on réussit par clonage à faire revenir une femme de Néandertal et à décrire notre monde. Il faut savoir qu'il y a 40 000 ans, les hommes et les femmes de Néandertal avaient un cerveau plus gros que le nôtre. Le nôtre aujourd'hui, c'est 1300, 1400 cm3. Néandertal, il était à 1600, 1700. Et nous, les hommes de Cro-Magnon, à l'époque, enfin pour l'Europe en tout cas, donc c'est vous et moi, personne ne le reconnaît dans la salle, ils avaient un cerveau de 1500, 1600 cm3. Alors longtemps, on a dit que la taille du cerveau était directement corrélée à l'intelligence. Alors évidemment, on avait une table ronde précédente où il y avait que des femmes. Comme les femmes, en moyenne, ont un cerveau plus petit, donc l'homme était plus intelligent, le mâle. Et quand on a découvert que Néandertal avait un plus gros cerveau, on a vite relativisé le machin, d'accord? Donc Néandertal...
Il a fallu en passer par Néandertal.
Il a fallu en passer par Néandertal, c'est vous dire comme nous sommes des archaïques. Donc aujourd'hui, effectivement, on le sait très bien, la taille du cerveau, c'est extrêmement variable. Par exemple, Anatole France, c'était 1000 cm3, et Tourgueniev ou le grand Cuvier, c'était 2000 cm3. Hein. Donc voilà. Donc ce qui fait l'importance de l'intelligence, bien sûr, c'est la richesse des connexions et les interactions dans les réseaux neuronaux et le contact avec le milieu extérieur. Voilà. Eh bien, ce qui veut dire que très clairement, et j'espère qu'on va le faire bientôt, parce que demain, on va avoir des clones des Néandertals. Hein. Je veux dire, vous ne faites pas d'illusions. Hein. Ça va venir. Hein. On en parle déjà. Et on verra que, je mets la main au feu, hommes ou femmes de Néandertal, ces gens-là élevés comme nous seront tout aussi intelligents, c'est tout à fait clair. Donc nous sommes des aides de construction, il faut arrêter ces conneries, pardonnez-moi, qui consistent à dire que Cro-Magnon, comme c'est des hommes préhistoriques, étaient moins intelligents que nous ou pas. Et il y en a qui me disent, ouais, ils n'avaient pas les cathédrales, ils n'avaient pas d'iPhone. Hey, franchement, les aborigènes n'ont pas les cathédrales, tant mieux pour eux d'ailleurs, ils ne sont pas moins intelligents que nous, d'accord ? D'ailleurs, j'aime bien une scène du film intellectuel qui s'appelle Crocodile Dundee. Dans Crocodile Dundee, le héros blond rencontre l'héroïne blonde, donc supérieure, et il rencontre un aborigène noir. Et la journaliste dit, est-ce que je peux le prendre en photo ? Elle dit, vas-y, connais. Alors, elle le vise, et l'aborigène lui dit, non, tu peux pas. Ah bon ? Donc, elle se déplace, elle le revise, et l'aborigène lui dit, non, tu peux pas prendre en photo. Tu as peur que je vole ton âme. Arrête de déconner, il y a le cash sur ton icône. Ben voilà l'erreur que nous commettons vis-à-vis des autres. Il y a une différence entre faire un iPhone et l'utiliser. Maintenant, il y a des manières plus intelligentes d'utiliser un iPhone ou nos ordinateurs. Et en fait, tout homme et toute femme sur cette terre qui naît dans une société apprend sa langue sans accent. Et si cette personne est intelligente, elle travaille, elle a un bon environnement, une bonne école et de l'amour autour d'elle, cette personne sera toute intelligente. Hein ? Arrêtons ce genre de bêtises. C'est facile de dire qu'on est plus intelligent que nos ancêtres, mais sans nos ancêtres, on ne serait pas là. Et ils avaient d'autres formes d'intelligence, ils avaient d'autres savoirs que nous n'avons pas. Franchement, je vous conseille un très bon livre, mais il n'est pas là. C'était chez Gallimard il y a 2 ans, qui s'appelle « Ce qu'il advint de l'aborigène blanc ». C'est l'histoire réelle d'un homme qui a échoué en Australie il y a 2 siècles. Et cet homme finit par revenir, c'est un Vendéen, donc pas loin d'ici, il finit par revenir et il est capable de faire des choses sur la plage que nous ne savons pas faire parce qu'il est notre culture. Donc comme disait Lévi-Strauss, parce que je suis très Lévi-Straussien, c'est qu'en fait, toutes les populations humaines d'aujourd'hui et bien sûr d'hier ont exprimé en moyenne, bien sûr, des formes d'intelligence différentes. Et si nous n'avons pas cette attitude d'admettre et d'accepter des intelligences différentes, je peux vous dire que demain, le monde va nous surprendre avec les robots qui arrivent. Donc, dépêchez-vous de considérer qu'Homo erectus, Néandertal, Denisova étaient tout aussi intelligents que nous. Ils avaient d'autres connaissances que nous n'avons pas. Et si nous avons une attitude péjorative, non justifiée d'ailleurs par les sciences, je pense que demain, comme le dit mon ami Jean-Michel Beignet, donc un des grands spécialistes du transhumanisme, nous risquons d'être dans une mauvaise attitude devant des machines qui auront des performances supérieures à nous, alors que c'est nous qui les avons construites. Donc Néandertal intelligent, c'est un meilleur avenir pour nous avec nos machines.
Oui, donc, c'est le message. Ça permet de faire la transition avec humanité unique depuis 40 000 ans, fait unique dans l'histoire de l'humanité finalement, une humanité unique depuis 40 000 ans, une humanité peut-être plurielle dans le futur. Tu parles de ce mouvement transhumaniste, de ce dépassement de l'humain par la technique. Est-ce que cette chose-là, est-ce que ces propositions qui sont faites sont-elles réalistes, plausibles, impossibles, lointaines et qu'est-ce qu'on peut en dire finalement de cette évolution de l'humanité peut-être prise en main par l'humanité elle-même finalement?
Ben ça, si je peux me permettre, d'une manière un peu brutale, on l'a déjà fait parce que je raconte ça dans mon livre de Darwin à Lévi-Strauss. Il s'est passé quelque chose d'inouï dans l'histoire de la vie il y a environ 100 000 ans. Alors moi, j'ai l'habitude de ces années, hein, 100 000 ans. Un jour, quelqu'un me demande, comme vous l'avez fait, c'est quoi l'âge de Lucie ? Je dis 3 125 000 ans. Et la personne est un peu surprise et elle me répond comme ça, avant ou après Jésus-Christ ? Je dis, on va prendre un peu de temps là. Bon, alors, non, évidemment qu'elle le sait bien, mais c'est pour vous dire que c'était des durées qui sont quand même importantes, 3 millions d'années. Hein. Et là, ça vous donne l'impression que nous avons une accélération de l'évolution, puisque les premières agricultures, c'est 10 000 ans au grand maximum. Les premières cités, c'est Ur, Uruk, au Proche-Orient, donc vers 5 000 ans. Donc, on a indéniablement une accélération. Mais du coup, avec cette idée-là, si on va dans l'autre sens, on a l'impression que ça se distille sur des durées comme ça. Or, l'évolution ne se passe pas comme cela, chers amis. L'évolution, ce sont des périodes de relative stabilité entrecoupées de périodes de changement extrêmement rapides. On appelle ça chez nous les équilibres ponctués. Vous avez tous vu Jurassic Park. Vous êtes un super tyrannosaure. Personne ne vous cherche des noises, vous êtes le plus méchant, le plus fort, le plus costaud. Hey, vous ramassez un météorite dans le genre spontané, ça vous fait du changement rapide, d'accord ? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein ? Ce qu'on appelle en économie les cycles Kondratiev-Schumpeter, c'est pareil, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et là, en effet, il y a 100 000 ans, il y avait une seule humanité. Avec nous, les Homo sapiens, donc les ancêtres des 7 milliards d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, eh bien, malgré la diversité qui est là ici déjà, mais celle du monde entier, génétiquement, nous sommes issus d'une population de 60 000 individus il y a 90 000 ans. Tous nos gènes viennent d'une population de 60 000 individus il y a 90 000 ans. Nous, les Homo sapiens, nous venons d'Afrique. Et ça, c'est les fossiles qui nous le disent. Mais également la génétique, également la linguistique. Et aujourd'hui, on est capable de reconstituer l'arbre de parenté de tous les mythes qu'il y a dans le monde. Et peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure. Ces mythes nous amènent à avoir des relations différentes avec nos robots, comme on verra tout à l'heure. Mais très clairement, nous, les Homo sapiens, nous sommes en Afrique et au sud du Proche-Orient, péninsule arabique. Au nord, l'homme du nord, c'est Néandertal. Néandertal est en Europe, c'est le vrai Européen, et il va jusqu'en Sibérie, on le sait depuis l'année dernière. Au cœur de l'Asie, on a les hommes et les femmes de Denisova. On sait que c'est une autre lignée, on ne sait pas comment ils étaient, parce qu'on n'a qu'une phalange, mais on les connaît par l'ADN. Et il y en a d'autres, certainement à Java et les petits hommes de Flores. Donc, je le disais tout à l'heure, une seule humanité sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie, plusieurs espèces d'hommes. Ça bouge avec les fluctuations climatiques, hein, c'est les âges glaciaires. Grosso modo, ça, c'est assez stable. Et à un moment donné, il y a 100 000 ans, nous, les Homo sapiens, nous entamons une expansion comme jamais dans l'histoire de la vie. C'est-à-dire que nous partons, il y a 90 000 ans, d'Afrique orientale. D'autres viennent d'Afrique du Sud, mais c'est notre espèce. Et ça, c'est un scoop, ça ne vous a jamais été dit. Donc nous partons d'Afrique et du Proche-Orient et nous sommes en Australie et même peut-être en Amérique du Sud avant d'être en Europe. Nous sommes en Australie et en Amérique du Sud avant d'être en Europe. Vous allez me dire, mais pourquoi ils ne vont pas en Europe? C'est à côté. Ben parce qu'en Europe, il y a quelqu'un qui nous attend et qui n'est pas content, c'est Néandertal. Donc Néandertal, nous allons cohabiter 10 000 ans avec eux, échanger. Hein, vous savez que dans cette salle, pour tous les non-africains, vous avez tous 2 à 4% d'ADN de Néandertal. Bon, j'en ai repéré certains et certaines à 10%.
Des noms.
Des noms. Alors, je vais faire casser la figure. Non, de toute façon, on a dit comment Néandertal était smart, donc il n'y a pas de souci. Hein? Alors, attendez, là, on vient de le découvrir. Je vous ai dit, on a des espèces différentes. Donc, par définition, on ne peut pas se reproduire avec Néandertal. Mais comment se fait-il que nous avons capté les gènes qui permettent d'être blond ou roux à la peau claire avec les yeux bleus? Car Néandertal, par sélection naturelle, pendant 400 000 ans, a fini par acquérir cette peau claire qui permet de mieux synthétiser la vitamine D en absorbant mieux, à travers de la peau, donc la lumière solaire. J'ai perdu le nerf. Voilà. Et nous, on l'acquiert rapidement. Et ben, on sait aujourd'hui, en génétique, qu'on peut capter des adaptations d'une espèce qui est proche de nous dans l'histoire. C'est pareil entre les poissons, c'est pareil entre les hommes. Et par exemple, on sait, c'est publié il y a un mois, les hommes et les femmes de Denisova avaient acquis une adaptation pour vivre en très haute altitude, et bien que les gens du Tibet aujourd'hui, dont le Dalai Lama a des gènes de Denisova. Il faut que je lui dise, il faut que j'en parle à Mathieu Carrière, ton Dalai Lama, il a l'ADN de Denisova. Donc, on s'aperçoit qu'on a une souplesse extraordinaire, que même les espèces avec lesquelles on s'est séparé depuis 500 000 ans, donc Néandertal et nous, Denisova c'est un million d'années, nous sommes encore capables de capter des adaptations des autres. C'est absolument extraordinaire. Donc, ce qui est nouveau aussi, et c'est peut-être de là que part la science-fiction, c'est qu'on comprend bien qu'à pied, parti d'Afrique, on aille vers l'Europe, on aille vers l'Asie, ça va très très vite. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va en Australie? Mesdames et messieurs, il y a toujours au minimum 80 km de mer à traverser pour aller en Australie. C'est les lignes de Wallace et de Weber. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'horizon. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes décident d'eux-mêmes d'aller vers l'inconnu absolu, c'est-à-dire vers des terres qui ne sont pas connues? Alors, il y a des gens qui me disent, ils ont pris le chemin le plus court. Et je lui dis, attends Coco, il n'avait pas Google Maps.
Exactement. Puis il y a le vent.
Il n'en savait rien. Alors, on a fait l'expérience récemment. Ça, c'est un article que je vais sortir dans un mois avec un grand événement autour de l'homme, le navigateur. Alors, surtout à Nantes, ça sera un plaisir de revenir pour ça. Et là, on a fait l'expérience. Vous connaissez, pour les plus anciens ici, les moins jeunes, pardonnez-moi, soyons positifs. Vous connaissez l'expérience du Kon-Tiki, vous savez, la navigation voilà, par Thor Jorgensen. Eh bien, ça a été refait. Eh bien, il suffit de construire un super radeau quand même. Ils l'ont pas fait du premier coup dans la mer de Timor. Et une semaine après, ils se sont retrouvés où ? Eh, ça s'invente pas, à la ville de Darwin. Quand même merveilleux, quoi. Ok ? Et en fait, c'est la première fois, alors qu'il y avait d'autres espèces d'hommes, que nous sommes capables de franchir les horizons. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre tête d'Homo sapiens qui fait qu'il y a peut-être 70 000 ans, des hommes et des femmes décident de leur propre volonté d'aller dans l'inconnu absolu et aujourd'hui d'aller dans la planète Mars ou ailleurs. Et nous sommes encore ces hommes et ces femmes qui ont besoin d'aller par-delà les horizons. Vous voyez, la science-fiction, ça commence avec les premiers aborigènes. Et c'est là que le film merveilleux qui s'avait L'étoffe des héros. Vous avez une scène merveilleuse dans L'étoffe des héros. Ce film est merveilleux, hein, sur la conquête spatiale américaine. Vous avez les gars qui partent. Et vous avez donc, on voit ça aussi dans Apollo 13, et vous avez les aborigènes qui participent. Je crois qu'ils ignoraient dans ce film que les premiers extraterrestres étaient peut-être les aborigènes australiens.
Et donc cette hybridation d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais...
Non, c'est des transferts d'adaptation, on ne parle pas d'hybridation.
Ce transfert d'adaptation...
Ça vient de sortir, on vient
d'accord,
de comprendre.
Hein. D'accord, donc ce transfert d'adaptation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait la même chose entre... Alors, avec l'image que ça présuppose, entre les machines et les humains, c'est-à-dire que... On va fabriquer des robots, on fabrique des robots intelligents, enfin, qui ont encore certaines capacités, qui ont des capacités peut-être d'adaptation, qui ont des algorithmes d'auto-apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'eux qui déteindront sur nous ? Peut-être pas qui passeront chez nous, ce ne sera pas de l'ADN, ce ne sera pas des informations génétiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se transmettre aux humains, qui va transformer l'évolution des humains, qui vont finalement coévoluer avec les objets techniques, les robots en particulier, qu'ils auront produits ?
Alors ça, c'est la coévolution. Alors c'est ce que je viens de dire. La coévolution, il y a plusieurs aspects. Coévolution, c'est de bien comprendre que nous n'évoluons pas seuls. Nous coévoluons avec les organismes qui nous entourent. Alors là, je crois que c'était passé le film Le ventre, notre deuxième cerveau. Vous savez qu'on vient de bien comprendre que là, tel que vous êtes, mesdames et messieurs, 80% des cellules qui sont de votre corps, eh bien 80%, ce n'est pas à vous. C'est du microbiote, c'est-à-dire ce qu'on appelle la faune intestinale et tout ce que vous avez sur votre peau. Et on est en train de découvrir que nous coévoluons avec. Ça, c'est valable pour toutes les espèces. Il y a une autre coévolution dans laquelle nous sommes de manière vertigineuse, et c'était votre question, c'est-à-dire que l'homme aussi, les populations humaines, vont connaître des sélections génétiques qui vont être liées aux choix culturels qu'ils ont faits. Par exemple, quand nos ancêtres agriculteurs prennent la décision de transformer les produits laitiers et de consommer des produits laitiers. C'était une sélection absolument redoutable sur la faune intestinale, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent consommer du lait ou ne pas consommer du lait. En gros, les choix alimentaires de nos prédécesseurs au fil de l'histoire, parce que le néolithique, c'est très vite dans l'histoire après, eh bien, ont eu des effets de sélection extrêmement importants. Donc, vos profils génétiques sont en partie sélectionnés par ces choix-là. Et ça a été violent dans l'histoire. Je vous donne un... Ça, c'est, vous le savez, mais d'où ça vient ? Dans l'agriculture du Proche-Orient, et qui est la nôtre, ou celle de la Chine, les paysans prennent la décision de faire rentrer dans la ferme, dans la domus, les animaux domestiques. Et là, évidemment, il va y avoir des sélections avec les agents pathogènes, etc. D'où ce qu'on appelle d'ailleurs les maladies infantiles aujourd'hui, ça vient de là. Par contre, les meilleurs agriculteurs du monde, qui sont les Amérindiens, surtout pour tout ce qui est végétal et plantes, eux n'ont jamais fait rentrer les animaux dans les maisons. Donc, ils n'ont pas coévolué avec les agents pathogènes des animaux. Et quand, en 1492, débarquent les barbus qui nous viennent donc d'Espagne, c'est le plus grand choc épidémiologique dans l'histoire de l'humanité, puisque qu'en quelques décennies, 90 millions d'Amérindiens vont disparaître de la variole, de la grippe, de la rougeole, etc. Donc voilà, nos cultures ont des effets là-dessus. La grippe est un effet aussi de coévolution lié à cette histoire qui nous vient de la Chine. Mais nous, on a évidemment participé à d'autres maladies. Donc, ça continue. Et aujourd'hui, une autre coévolution se met en place, c'est celle des machines qui nous entourent. Et clairement, on y est. Parce que le monde de demain, et c'est ce que je raconte dans le monde économique et social... Et vous ne pouvez pas savoir comme ça va changer pour votre santé. Hein. Donc 5 ans, même pas, vous aurez tous votre génome. Déjà, vous avez les mondes connectés. Déjà, vous serez capable de suivre vos besoins, les pas que vous faites par jour. Vous avez déjà les applications pour les plus jeunes, de ce dont vous avez besoin. On y est. On y est parce que déjà les grandes compagnies d'assurance et d'assistance sont déjà en train de travailler là-dessus. Ce qu'on appelle la médecine évolutionniste. Et donc derrière cela, nous allons apprendre à vivre avec une nouvelle humanité plurielle, avec des êtres anthropoïdes que nous aurons fabriqués, mais qui eux-mêmes vont évoluer. Parce que un des aspects de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de faire que les machines elles-mêmes trouvent les solutions qui vont peut-être d'ailleurs nous échapper, mais qui seront là et qui seront autour de nous. Donc on va revivre comme à l'époque de Néandertal et Denisova. C'est absolument fascinant. Et derrière cela, franchement, le monde de demain, c'est Blade Runner, c'est Her, c'est Minority Report. Vous y êtes déjà, selon l'application que vous avez dans votre poche, vous avez déjà repéré pour les magasins les choses à faire. On y est. Et aussi la planète des singes, mais là, vous verrez, c'est peut-être la mauvaise nouvelle. Pas à cause des grands singes, mais pour nous. Et peut-on croire que nous sommes sortis des problématiques de l'anthropologie ? Ben justement, non. Allez, interro surprise. Je suis universitaire, donc même un dimanche, je colle des interro surprises. Savez-vous pourquoi, mesdames et messieurs, les Japonais et les Coréens du Sud sont les meilleurs du monde pour les robots humanoïdes ? Quelqu'un peut me répondre à ça ?
Alors,
et pourquoi aussi, non, c'est pas commode, donc je vais répondre, pardonnez-moi, c'est pour vous titiller, mais et pourquoi aussi sont-ils la meilleure école d'étude du comportement des animaux au monde, ce qu'on appelle l'éthologie. La meilleure école d'éthologie au monde, c'est les Japonais. La meilleure tradition des robots humanoïdes, c'est les Japonais. Le Tamagotchi, chez nous, est inconcevable. Pour eux, ça ne pose aucun problème. Et bien, pour quelle raison, mesdames et messieurs ? C'est parce que les Japonais, je vous en prie, monsieur, si je peux vous entendre.
Oui, il y a un micro.
Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler dans la... Il y a un monsieur qui a une réponse, voilà. Merci.
On arrive vers vous, monsieur.
Voilà.
On ne vous entend pas, excusez-moi. Voilà. Merci, madame.
Merci, il y a une dame qui vient avec le micro. Merci beaucoup.
Oui, la réponse que je connais, c'est parce que notre monothéie nous a donné un autre rapport faussé avec animaux, etc.
C'est exact. C'est lié à nos ontologies fondamentales. Je vous conseille vraiment de lire déjà un des plus grands livres du XXIe siècle, qui est de Philippe Descola du Collège de France, qui s'appelle « Par-delà, nature et culture ». Au mois de juillet, et la couverture du journal pour la science était là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure. On reconstitue le peuplement de la Terre, de notre espèce, en suivant l'arbre de parenté des langues, des gènes et des mythes. Car les peuples se déplacent avec leur langue, leurs gènes et leurs mythes. Et du coup, en Extrême-Orient, et ça a été dit par monsieur, enfin bon, je vous donne la version de l'autre côté, ils sont animistes, ou plus ou moins animistes. Pour des Japonais ou des cultures d'Extrême-Orient, d'ailleurs c'est intéressant, parce que pour eux, le singe est noble. Le singe, c'est Hanuman. Le singe est le médiateur des dieux vis-à-vis des hommes. Alors que chez nous, le singe est maîtrisé, est méprisé. Et bien, chez les Japonais, être animiste, ça veut dire qu'un animal, un macaque, ça commence avec les macaques de l'île de Koshima, ou un robot humanoïde est investi d'emblée de propriétés humaines, c'est-à-dire d'empathie, de sympathie, d'émotion. Alors que nous sommes des cartésiens, nous sommes dualistes, ça a été dit par monsieur. Il y a l'homme à l'image de son créateur et l'animal est une machine, il n'a pas d'âme, il n'a pas de conscience. On vient simplement de découvrir, mesdames et messieurs, que les animaux n'étaient pas des choses. Quelle évolution ! Eh, on est un siècle à la bourre, tout simplement. Hein ? Et derrière cela, les deux pays les moins robotisés au monde sont la France et l'Angleterre, les deux premiers pays de la révolution industrielle. Donc vous voyez que encore nos réalisations techniques, alors qu'on a une très belle école de robotique en France, hein, Jean-Marie Ganassia était là, donc on a une très très belle école, donc de robotique en France. Mais par contre, c'est la robotique humanoïde. Alors, on nous dit que les Japonais, ils font ça parce que, effectivement, ils ont un vieillissement de la population. Eh bien, je vous donne les conséquences économiques. Un jour, j'étais dans un débat sur le monde en ce moment qui change, une grande entreprise d'assurance française, mais internationale. Et là, ils avaient proposé au Japon de faire un plan assistance vieillesse, hein, on en parle en France, bien sûr, avec des robots humanoïdes. Les Japonais trouvent ça super. Mais ça doit être validé en France. Et le projet est refusé. Je veux attirer votre attention, mesdames et messieurs, c'est que le projet n'est pas validé ou invalidé sur sa qualité technique. Il n'est pas validé ou invalidé sur les services qu'il peut rendre aux personnes âgées. Il est validé sur des concepts ontologiques qui datent de 7 à 8 000 ans. Tout simplement.
Donc le monde de demain sera aussi un monde de nos ontologies fondamentales avec ces machines. Donc vous voyez comme quoi les machines évoluent, mais n'en déplaise à une partie des sciences humaines, quand ils dénoncent la sociobiologie à laquelle ils n'ont rien compris, je peux vous garantir, mesdames et messieurs, que nos gènes évoluent plus vite que nos représentations anthropologiques.
Bon, alors, merci. C'est excellent. Moi, je bois du petit lait. Je suis tranquille ici. J'espère que vous aussi. Je pense, là, il nous reste une vingtaine de minutes. Je suis certain qu'il y a autant de questions que de personnes dans l'Assemblée. Donc, je propose qu'on passe à la partie questions qui est adressée à Pascal Pic. Et donc, le micro, alors évidemment, là, c'est la force appartient à celui qui a le micro. Donc il faut lever la main et essayer d'obtenir le micro pour pouvoir parler. Merci à vous d'avance.
Oui, bonjour. En fait, moi, j'avais pas bien compris la façon dont deux espèces différentes peuvent partager les mêmes gènes alors qu'elles se sont pas reproduites entre elles. Est-ce que vous pouvez développer ça?
Oui. Alors, je vais vous donner une réponse. Je la connais depuis, chère madame, la semaine dernière avec un collègue généticien qui travaille sur les bars et les loups. Alors les bars, c'est l'Atlantique, les loups, c'est la Méditerranée, mais on les appelle les bars. Et il y a une zone tampon où les deux populations, celle de Méditerranée et celle de l'Atlantique, peuvent se rencontrer au sud de l'Espagne. Et on s'aperçoit que ce sont deux espèces. Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'individus viables issus du croisement de leurs gamètes. Mais cependant, on sait qu'aujourd'hui, il y a des transmissions horizontales de parties génétiques. Donc ce qui veut dire que ce qui détermine nos espèces, ce sont une partie du génome qui, lui, est complètement figée et qui ne peut pas se modifier. Par contre, ce qui est arrivé le plus récemment dans l'histoire d'une espèce, eh bien, ce sont des adaptations récentes qui, elles, évidemment, ne sont pas encore complètement intégrées profondément dans le génome et qui, évidemment, peuvent être transférées horizontalement. Donc ce qui veut dire, et c'est absolument extraordinaire, que des espèces avec lesquelles on s'est séparé depuis quelques milliers d'années ou centaines de milliers d'années, leurs adaptations récentes peuvent nous bénéficier. Et ça, on revient à Darwin. Darwin, c'est un génie, ce mec-là. Darwin qui disait, à propos de la sélection sexuelle, il disait, après tout, je pense que la sélection sexuelle a certainement fait beaucoup plus pour la diversité de l'humanité que la sélection naturelle. Parce que Néandertal a acquis ses caractères, nous, on en a acquis d'autres, hein, bien sûr, au fil de 200 ou 300 000 ans, et nous, il nous a suffi de faire l'amour avec eux pour l'avoir. C'est quand même assez extraordinaire. Okay, et voilà. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir. On a une plasticité des génomes qu'on n'imaginait pas. Alors ça m'amène à un autre concept qui est passionnant pour la robotique. Ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. L'ingénierie inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus quelque chose est apparu il y a longtemps dans l'histoire de la vie, plus ce sera difficile à reconstituer par nos machines. Je résume. Nous sommes des grands singes et la mastication chez nous, c'est ma spécialité, est extrêmement complexe et elle est apparue il y a 32 millions d'années. Notre marche debout, notre bipédie extraordinaire, est apparue il y a 2 millions d'années. Ça me permet d'ailleurs de faire une précision dans une question à laquelle je n'ai pas répondu. Il y a une étude qui vient de sortir, on s'en doutait. On vous décrit l'évolution de notre cerveau avec le développement du néocortex, notamment les zones frontales, qui servent à l'empathie, l'intelligence, l'émotion, l'échange, l'apprentissage. Mais on vient de s'apercevoir que la partie la plus importante de notre évolution, c'est le cervelet, c'est-à-dire toute l'ingénierie qui gère notre corps et notre intelligence. Le cervelet a plus de neurones que l'ensemble du néocortex et a des connexions avec l'ensemble de notre cerveau. En fait, c'est le hardware qui est là, je peux vous dire, c'est le truc le plus complexe. Et ça, c'est de l'ingénierie inverse. Ce qui veut dire que si vous tombez ou si quelqu'un tombe dans le coma, vous devrez réapprendre à marcher, mais pas réapprendre à mastiquer. Parce que plus quelque chose est arrivé il y a longtemps dans l'histoire de la vie, plus c'est intégré dans le génome. Donc voilà, j'ai fait ce petit détour. Donc l'acquisition d'une peau claire, etc., étant récente, eh bien, c'est plus facile à transférer. Et un des paradoxes qu'on appelle le paradoxe de Moravec en intelligence artificielle, c'est de dire que nos machines, les plus extraordinaires, c'est plus facile de faire pour nos ingénieurs des machines qui font des choses compliquées que des choses simples pour nous. En gros, c'est plus facile de faire une machine qui nous bat aux échecs ou une machine qui nous bat à Jeopardy, qui est le jeu des 1000 francs, version française, des 1000 euros, c'est-à-dire Watson, on en parlait ce matin, que de faire une machine qui marche comme nous. Voilà. Donc voilà, l'ingénierie inverse. Donc plus les adaptations sont récentes, plus elles peuvent se transférer entre des espèces qui sont encore proches. Je suis désolé, madame, c'est fascinant, mais ça vient de sortir. Vive l'évolution.
Merci à votre réponse. Passionnant. Oui, il y a une réponse.
Non, pas une réponse.
Pas une réponse, je vous demande une question.
Dites-vous, s'il vous plaît.
Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Ah, bah, voilà. Ah, bah, merci beaucoup.
Vous disiez qu'il n'y avait pas vraiment de films bons sur la préhistoire, mais quels sont les livres qui sont à conseiller?
Bah, les miens, ouais.
Vous lisez des livres de science-fiction, c'est ça? Peut-être.
De science-fiction, mais pas nécessairement. Enfin...
Bah, écoutez, l'homme est-il un grand singe politique, où je fais une exégèse de la planète des singes, qui n'a jamais été faite. Parce que là aussi, je ne résiste pas à cette idée-là. La nouvelle série, La planète des singes, je la trouve bien. Parce que dans la nouvelle de Pierre Boulle, La planète des singes, ça se passe aujourd'hui. Hein. Ça ne se passe pas dans la préhistoire, quand dans le grand film de Schaffner de 68. Hein. Ça se passe aujourd'hui. Et en fait, dans aucun des films de La planète des singes, que ce soit les films de 68, que ce soit la série télévisée, ou que ce soit la dernière série, aucun des films ne reprend la raison pour laquelle les grands singes prennent le pouvoir sur la planète Soror. Vous savez pourquoi les grands singes prennent le pouvoir sur la planète Soror? Qui le sait? Parce qu'on y va tout droit. Hein. Eh bien, sur la planète Soror, les scientifiques chimpanzés sont aussi bons que nous sur la planète Terre. Il y a un domaine dans lequel ils sont meilleurs. C'est en sciences cognitives, c'est pas le terme de l'époque, mais en neurophysiologie. Et là, notre héros humain qui visite le laboratoire scientifique des chimpanzés, il s'appelle Ulysse Mérou, comme vous savez, donc c'est un anagramme de Ulysse. Et là, Ulysse Mérou assiste à une expérience où là, les chimpanzés scientifiques arrivent à extraire la mémoire profonde d'une femme qui normalement ne parle pas. Donc ce que j'appelle une espèce de psychanalyse hypnotique. Donc ils extraient le disque dur, si vous me permettez. Et là, cette femme a consciemment dit ceci. Et là, vous n'avez jamais oublié ce que je vais vous dire. Voilà ce que dit cette femme. En fait, tout allait bien sur la planète Soror. Nous avions des machines qui pourvoyaient à nos besoins et qui produisaient les aliments et l'énergie. Et pour les choses les plus compliquées, nous avions domestiqué les grands singes qui faisaient l'essentiel de ce dont on avait besoin. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs physiquement. Nous avons cessé de réfléchir. Et même les films enfantins ne nous intéressaient plus. Et pendant ce temps, ils nous observaient. Mesdames et messieurs, le vrai danger des machines de demain intelligentes, ce ne sont pas les machines en elles-mêmes. C'est-à-dire que si nous cessons d'être actifs physiquement et intellectuellement, nous cesserons d'être des hommes et des femmes. Et il y a déjà 50% de la population américaine qui est dans cet état.
Bientôt 100%.
Je ne déconne pas. Un jour, un copain me dit, ça y est, j'ai compris. Il était à Boston, il voit arriver des gens hilars, une quinzaine de personnes en fauteuil roulant. Il disait, c'était marrant, parce que c'est vrai que les Américains sont très tolérants à cet égard, parce que nous, c'est Descartes. Un handicapé, c'est le péché de Dieu. C'est pour ça qu'on est en retard en France sur l'handicap. Hein. On est vraiment des archaïques. Hein. Et là, donc, ils déboulent avec leur fauteuil roulant. Et là, ils sont pris. Ils se garent comme les chevaux de Western. Ils sortent dans leur fauteuil. Ils vont casser la croûte. Ils repartent en fauteuil roulant. Je dis, c'est quoi ce gag? Je dis, ouais, il y a un courant aux États-Unis qui est parfaitement intellectualisé, qui consiste à dire que l'évolution, en fait, a fait de nous des humains imparfaits, que marcher est une malédiction. Donc ces gens-là refusent de marcher, refusent de réfléchir. Et c'est là que ça nous amène au transhumanisme. Vous savez que le transhumanisme, alors là, on en parlait tout à l'heure en préparant cet entretien, précipitez-vous tout à l'heure le numéro de Philosophie Magazine sur le transhumanisme aux États-Unis. Et le transhumanisme, c'est passionnant. Ça veut dire que les techniques de demain, c'est-à-dire les NBIC, nanotechnologie, biologie de synthèse, sciences de l'informatique et sciences cognitives vont nous permettre d'avoir une vie éternelle, en tout cas une jeunesse J'espère. Prolongée. Voilà. Et là-dedans, vous avez les GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon et Apple dans la foulée quand même, mais un peu moins, mais ils y sont. Et ils ont des milliards de dollars, hein, c'est des centaines de milliards de dollars. Et l'idée, c'est de dire que l'homme est arrivé au bout de l'évolution et qu'on va le remplacer par toutes ces technologies extraordinaires pour prolonger sa vie, etc. Est-ce que c'est nouveau? Bien sûr que non. Dès qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité des avancées technologiques, vous avez toujours vu venir le combat contre la maladie, l'éternelle jeunesse et la vie éternelle. Descartes en parlait avec l'animal-machine. au moment des automates, etc., l'ève imaginaire, l'ève imaginaire, l'amétrie en France, l'animal, l'homme-machine. Et là, mon prochain livre en parle. On a complètement oublié en Occident qu'il y a un siècle, mesdames et messieurs. Et ça, c'est mon prochain livre dans le discours d'une femme de Néandertal. C'est pour ça que je l'ai fait émerger en Russie. Il y a un siècle, vous n'imaginez pas ce qu'ont fait les chercheurs russes. C'est inimaginable. Ils étaient en avance sur l'étude des singes et en avance sur la conquête spatiale. C'est pour ça que dans les années 50, les Américains ont paniqué. Ça faisait 30 ans, ça faisait 50 ans que les Russes étaient en avance là-dessus. 50 ans. Et vous pouvez relire H.G. Wells, L'île du docteur Moreau, Frankenstein, le Frankenstein rouge. Vous découvrirez qui était le Frankenstein rouge. Staline avait pour projet de faire une armée hybride homme-chimpanzé. Oui, ils l'ont mis en place. Les xénogreffes. Madame Orland, l'artiste futuriste qui se fait greffer des parties animales, eh bien, eux, ils l'ont fait. Tout ça a été balayé avec Staline. Et en fait, ils étaient toujours sur les problématiques de quoi ? Éternelle jeunesse, guérir la maladie, remplacer les parties manquantes, mais là, c'était pas par des nanotechnologies, mais des parties d'animaux. Et puis, derrière cela, évidemment, la volonté de pouvoir, comme toujours. Il n'y a rien de nouveau dans les aujourd'hui, le transhumanisme. Ça ne s'appelait pas comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de techniques et de moyens en œuvre. Et derrière cela, bon, je ne suis pas contre que ces technologies nous apportent des choses, c'est une évidence. Mais c'est un anti-évolutionnisme. Pourquoi c'est un anti-évolutionnisme ? Parce que d'abord, il y a un postulat qui nous dit l'homme est arrivé au bout de son évolution. Ça, c'est faux. Et deuxièmement, ça peut tuer toutes les potentialités qu'on imaginait en termes d'adaptation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand il y a 50 ans, on a mis en place en France le programme social du Conseil national de la résistance avec la sécurité sociale, l'éducation, etc., personne n'allait imaginer que nous aurions une telle augmentation du niveau de vie et la qualité de la vie. Alors tout à l'heure, les dames disaient que les hommes ne parlent pas de leurs enfants. Eh bien, je viens d'avoir 60 ans, j'ai 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants, et que pour le message soit clair, je viens de m'acheter une grosse moto, on va pas lâcher. Ok, ça veut dire quoi ? Ben, c'était pas un programme transhumanisme. C'est parce qu'on a une meilleure éducation, santé, hygiène, et surtout le rapport à l'autre. L'amour, la santé, l'empathie, etc. C'est ça qui fait qu'on vit longtemps. Si vous avez des machines merveilleuses autour de vous et que vous avez une vie de con, de toute façon, vous n'allez pas vivre longtemps. Okay ? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour les maladies neurodégénératives, que plus vous aimerez longtemps, vous serez actif longtemps, vous aimerez longtemps, vous lirez longtemps, vous bougerez longtemps, plus vous vivrez longtemps. Et ce n'est pas le transhumanisme qui vous l'apportera. Ça aidera, mais ce n'est pas ça la solution.
Les machines sont là pour stimuler et pas pour...
Elles sont là pour stimuler, pour on est d'accord.
Alors on va prendre une question encore. Hein. Il a des longues réponses, oui. Pascal Pic. Pardon, mais elles sont sympas, on est d'accord.
Oui, bah, ça marche, c'est bien. Question
vous science... Tout. Est-ce oui, qu'on peut vous, monsieur. Voilà. Merci.
Merci, monsieur.
Ouais, question science-fiction. Imaginons qu'on revienne dans un monde où il n'y a pas de Néandertal, pas d'humains, et par contre, il y a toujours les chimpanzés, les gorilles, les bonobos, mais dans un espace complètement ouvert. Ouais. La question qui se pose, est-ce que c'est le plus agressif qui va triompher, et auquel cas, ça refera des humains déshumanisés encore aussi agressifs que l'humain aujourd'hui ?
Là, c'est vraiment la science-fiction. Mais il est vrai que, d'ailleurs, c'est un très très beau livre de William Bogg, qui s'appelle, si ça vous intéresse, Brazzaville-Plage. Lisez Brazzaville-Plage, c'est une nouvelle absolument merveilleuse. On découvre que les chimpanzés se font la guerre. Et effectivement, monsieur, j'aimerais bien avoir une réponse plus bucolique, si je me permets l'expression, mais il y a un constat. Et c'est ce que je raconte dans De Darwin à Lévi-Strauss. Dès que l'homme est sorti des forêts, et contrairement à ce qui se passe en partie dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et on le sait aussi depuis très peu de temps, il y a longtemps eu cette idée que l'homme sortant de la forêt était nu, fragile, sans griffes, ne pouvait pas s'échapper rapidement si des prédateurs l'attaquaient, etc., et qu'il a dû trouver les réponses, donc 2001, l'Odyssée de l'espace, et Coral Lorenz. En fait, on sait maintenant que dès que les hommes, alors qu'ils dépassent pas 1m20 à l'époque, hein, sortent des forêts, les australopithèques qui étaient encore, hein, et qui se mettent dans les espaces ouverts, l'homme devient, au sens d'un grand monsieur d'ailleurs, qui est très utile pour la science-fiction, qui s'appelle Jacob von Exkull, qui est un très très grand spécialiste du comportement animal. Et il dit, von Exkull, que l'homme est un constructeur de monde. Depuis 2 millions d'années, monsieur, nous modifions le monde autour de nous, à travers nos représentations et à travers nos actions et nos outils. Et dès qu'on sort des forêts, l'homme est le premier grand singe à s'affranchir du monde des forêts, nous allons éliminer les espèces les plus proches de nous. Les australopithèques vont disparaître et aussi les grands prédateurs. Les grands prédateurs qui ont eu la mauvaise idée de se dire on va se bouffer du bonhomme, ben ils se sont fait bouffer. Parce qu'un homme ou une femme tout seul face à un prédateur, mauvaise nouvelle. Mais à partir de deux, les mauvaises nouvelles, c'est pour les autres. Et à partir de là, nous sommes la seule espèce qui va se répartir partout dans le monde. Et il y a la destruction. Il y a une agressivité, très clairement, au sein du genre homo. Et ce n'est pas que notre espèce, ça a été toutes les espèces du genre homo. Sauf qu'il y a une accélération prodigieuse depuis 50 000 ans. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se répandre donc depuis l'Afrique, nous les Homo sapiens, depuis 90 000 ans. On va aller dans tous les continents. On va finir par éliminer les espèces les plus proches de nous. Néandertal, Denisova, Flores. On arrive en Australie, on élimine les grandes faunes de mammifères marsupiaux. On arrive dans les Amériques, c'est pareil. Donc nous sommes une espèce qui a une puissance écologique absolument ahurissante, qui aujourd'hui est démultipliée par nos techniques, notre nombre et nos activités. Mais malheureusement, je ne dis pas que c'est dans la logique de l'évolution, mais si les chimpanzés pouvaient prendre leur chance, je pense qu'ils ne la louperaient pas non plus. On ne refait pas l'histoire, mais il est inquiétant de savoir qu'ils ont aussi les mêmes potentialités que nous à cet égard. Au passage, ce qu'ils partagent avec nous, c'est que chez toutes les espèces de mammifères, tous les singes, toutes les sociétés sont organisées autour des femelles. Les femelles restent ensemble toute leur vie, et c'est les mâles qui migrent à l'adolescence pour se reproduire. Il n'y a pas d'inceste dans la nature. Lévi-Strauss avait bien vu, mais après, on l'a mal compris. Les deux seules espèces chez lesquelles les mâles restent ensemble et qui font de la politique et qui font de l'agression vis-à-vis des groupes voisins, c'est les chimpanzés et les hommes. Donc je ne dis pas que ça vient de là, mais il est très clair qu'il y a une particularité des espèces de chimpanzés et d'hommes qui forment des coalitions de mâles capables de se fédérer pour faire de la politique, c'est-à-dire des conflits au sein du groupe, et de mener des actions extrêmement agressives vis-à-vis des groupes voisins. Voilà, c'est un constat. Les conclusions, on peut les tirer comme vous voudrez.
Alors, on va prendre une ultime question. Celui qui a le micro a le pouvoir.
Je suis désolé, j'ai le micro. Bonsoir. Je ne sais plus quand est-ce que ça m'est venu, mais à un moment, vous avez parlé, je crois, de génétique. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on a fait des avancées sur les allergies, sur le fait génétiquement? Parce que c'est quand même une question qui, a priori, qui n'a pas forcément de réponse. Est-ce qu'on avance là-dessus ou est-ce que... voilà.
Cher monsieur, merci, on commence à avoir des réponses. C'est une question de coévolution. Alors, la médecine moderne a fait des progrès extraordinaires par l'hygiène et la vaccination, qu'on le veuille ou non. Maintenant, il se passe une chose. À force de trop aseptiser, nous nous mettons en danger. Parce que effectivement, tous ces systèmes immunologiques qui ont coévolué, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les autres espèces autour de nous, comme nos inventions culturelles et les animaux domestiques. En fait, on a construit au fil de milliers d'années donc un écosystème qui est encore en nous, qui est le microbiote, et tous les gènes que ça compose, on appelle le microbiome. Voilà. Et ceci est une protection extraordinaire. Et là, à force de trop d'asepsie, nous avons en fait mis au chômage, si je peux me permettre, nos systèmes immunologiques. Il n'y a jamais eu autant de maladies auto-immunes, c'est-à-dire que nos systèmes immunologiques se tournent contre nous. Et donc c'est la médecine évolutionniste, et pareil pour les allergies, parce qu'on a des concentrations énormes d'agents agressifs et on n'a plus les défenses. Et comme on arrive à la fin, la meilleure réponse, cher monsieur, sur l'importance du microbiome, on la trouve chez Herbert George Wells dans La Guerre des Mondes. Dans La Guerre des Mondes, et d'ailleurs c'est la narration qui est à la fin du film de Steven Spielberg, Spielberg extraordinaire, le film de 2005, et il dit ceci. En fait, si nous n'avions pas été pris par l'épouvante, et moi en premier, nous aurions pu savoir dès le départ que de toute façon, les Martiens, les envahisseurs ne gagneraient pas. Car à partir du moment où ils se mettent à boire, respirer, à manger, leur sort est scellé. Car à partir du moment où ils se mettent à boire, à manger, à respirer, ils s'inscrivent dans un écosystème dans lequel, effectivement, ils vont être confrontés à ces micro-organismes auxquels nous, les humains, nous nous sommes adaptés au prix de millions de morts et de millions de générations. Et à partir de ce moment-là, ces micro-organismes étaient devenus nos principaux alliés et le sort des Martiens était la mort. Donc, et aujourd'hui, l'asepsie, peut-être, il faut réapprendre à nos enfants à salir les mains, il faut apprendre à être un peu plus sale pour reconstruire nos systèmes, évidemment, microbiotiques. Et je pense que les enfants vont nous suivre rapidement là-dessus. Merci.
Merci à vous pour cette conclusion. Bravo. Bon, ben, c'était une modération facile.
Je t'ai pas laissé une seule chance.
Mais il n'y a pas de problème, c'était toi. On était là pour t'écouter. Merci infiniment de votre présence. Pascal Pic va encore donc participer à une autre table ronde vers 3h30. C'est maintenant. Donc à une autre table ronde juste derrière. Et après, il y aura sa dédicace à 16h. Merci à vous. Merci et bonne fin d'après-midi.